Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR présentée aujourd'hui par Claude Janin et Xavier Maga.
Le premier Tour de France 1903 est passé sur la RN7. En ce matin du 2 juillet 1903, aux abords de Fourneau, il n'est pas encore 7 heures. Sur la RN7, venant de la direction de Roanne, surgit un cycliste. Il est habillé d'un pantalon golf, d'une veste blanche et coiffé d'une casquette. Que fait-il là, seul ? Il paraît être fatigué, mais pas à bout de force. Il roule relativement vite, comme pressé d'arriver à destination, mais malgré tout, il paraît mesurer son effort. Et de fait, il vient de loin. Parti la veille à 15h16 minutes précises de Montgeron dans la banlieue sud de Paris, plus précisément devant le café Le Réveil Matin. Et il n'est pas parti seul. Ils sont 59 à s'être élancés ensemble du même endroit et à la même heure. Ils sont en fait les premiers coureurs participant au premier Tour de France cycliste jamais organisé. Ils ont pris ce 1er juillet le départ de la première étape qui doit les conduire à Lyon après avoir parcouru pas moins de 467 kilomètres. Mais là, à Fourneau, Maurice Garin est seul. Il est le premier coureur du premier Tour de France à gravir le premier col qui ait jamais franchi un Tour de France, le col du Pain-Bouchain. Il a pour nom Maurice Garin. Il va gagner la première étape à l'arrivée à Lyon, après 17h45, passé en continu sur son vélo. D'origine piémontaise, Maurice Garin est considéré comme le meilleur cycliste de l'époque et possède déjà un grand palmarès. Surnommé le « petit ramoneur », ne me demandez pas pourquoi, il compte à son actif notamment 2 victoires sur Paris-Roubaix en 1897 et 1898 et s'est imposé sur des courses renommées comme Paris-Brest-Paris, Bordeaux-Paris, Paris-Cabourg, Paris-Le Mans, ou encore dans des épreuves sur piste comme les 24 heures de Paris disputées en 1895 sur le Vélodrome des Arts Libéraux et pendant lesquelles il parcourt 701 kilomètres. Il sera ainsi le premier vainqueur de ce Tour de France 1903 au bout de 6 étapes prévues par les organisateurs reliant les plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, par un parcours total de 2428 km. La longueur des étapes varie de 268 km pour la plus courte entre Toulouse et Bordeaux, à 471 km pour la plus longue entre Nantes et Paris. Le tracé du Tour permet notamment à certaines régions de découvrir pour la première fois une compétition cycliste de grande ampleur. Le départ des étapes se fait la plupart du temps la nuit, entre 23h et 5h du matin, afin d'éviter les fortes chaleurs. Les coureurs bénéficient d'un ou plusieurs jours de repos entre chacune des étapes. Le profil du parcours, lui, est relativement plat et le tracé évite les massifs montagneux, bien que les coureurs franchissent tout de même 2 cols, le col du Pain-Bouchain, que nous avons évoqué, et un col dépassant les 1000 mètres d'altitude, le col de la République, situé après Saint-Étienne dans la 2e étape entre Lyon et Marseille. Le 18 juillet, c'est-à-dire presque 3 semaines après le premier départ, la 6e étape permet aux 21 coureurs encore en course de rejoindre Ville-d'Avray dans la région parisienne. Le départ et l'arrivée n'ont pu se faire à Paris, car le préfet de Paris de l'époque, M. Lépine, avait pris une ordonnance pour l'interdire. Le Tour de 1904 suivra sensiblement le même parcours et repassera sur la route nationale 7. Mais à partir de 1905, la grande boucle s'élargira pour passer au plus près des frontières. Ce premier Tour de France, ainsi que les suivants, est organisé par le journal L'Auto, dont le directeur est Henri Desgranges. Ce journal est imprimé sur papier couleur jaune, d'où le choix de cette couleur pour le maillot qui sera rapidement attribué au leader du classement général. Pour ce premier Tour de France, Maurice Garin est vainqueur au bout de 6 étapes. Il a parcouru les 2428 km en 94 heures 33 minutes 14 secondes, soit une moyenne d'un peu plus de 25 km/h. On est loin des moyennes des coureurs d'aujourd'hui, mais avec les moyens de l'époque et de 6 longues étapes, c'est un énorme exploit. Maurice Garin devance le deuxième, Lucien Potier, de 2h59 minutes et 31 secondes. Arsène Milochaud, lanterne rouge du Tour de France 1903, terminera dernier à plus de 60 heures de Maurice Garin. Il aura mis presque deux fois plus de temps. Durant les premiers tours, les vélos sont rudimentaires, pas de dérailleur. Il faut retourner la roue pour changer de pignon. Pas de roue libre non plus, ce qui les oblige à maîtriser le pédalage, seul moyen de ralentir. Ainsi, plus que les montées, ce sont les descentes qui posent des difficultés pour les cyclistes. On ne parle pas non plus de caravanes ou de voitures suiveuses. Les coureurs sont seuls et en cas de problème doivent se débrouiller pour se dépanner eux-mêmes. C'est pourquoi leur poitrail était ceinturé de deux chambres à air de rechange. La plus belle anecdote de ces dépannages de fortune est celle d'Eugène Christophe, au cours de la 11e édition du Tour de 1913. Au sommet du Tourmalet, il passe en seconde position, mais il est renversé par une voiture dans la descente. Son vélo est totalement inutilisable et règlement oblige, il est obligé de parcourir à pied en portant son vélo sur l'épaule les 14 km qui le séparent de Sainte-Marie-de-Campan. Dans le village, il trouve une forge et se met immédiatement à la réparation de son vélo sous la surveillance des officiels. Pour ce faire, il doit engager dans le fourreau de direction un morceau de fer de 18 mm qu'il a retravaillé lui-même à l'aide de la forge. Puis il doit faire des trous dans la tubulure afin d'y engager des goupilles. Un vrai travail de professionnel. Deux heures après le début de la réparation, un des officiels, qui prend faim, demande à Henri Desgranges la permission d'aller manger un morceau.
Si vous avez faim, mangez du charbon. Je suis votre prisonnier et vous resterez mes geôliers.
Lui répond Eugène Christophe. La réparation durera en tout et pour tout 4 heures. Les illusions d'Eugène Christophe, évidemment, se sont envolées définitivement quand une victoire finale dans ce Tour de France. Au classement général, il finira quand même, malgré tout, 7e à un peu plus de 14 heures du premier. En ce matin du 28 septembre 2003, aux abords de Fourneau, il n'est pas encore 11 heures. Sur l'ancienne RN7, venant de la direction de Roanne, surgit un groupe de cyclistes. Ils sont habillés d'un pantalon golf, d'une veste et sont coiffés d'une casquette. Chevauchant des vélos du début du XXe siècle, ils passent devant un groupe dans lequel se reconnaissent Bernard Thévenet, vainqueur des Tours de France de 1975 et 1977, et Roger Valkoviak, vainqueur du Tour de France de 1956. Sont là aussi les coureurs professionnels du Rouennais qui ont participé à divers Tours de France, ainsi que les membres du club de la Groisse, club cycliste de Fourneau, et du CR4C. Sont là enfin les responsables de la commune. Tous, en ce jour de fête de la Groisse, sont venus commémorer le centenaire du premier Tour de France de 1903. Toute l'après-midi, un défilé historique reconstituera les Tours de France de différentes époques. Mais en ce matin, à 11h, au bord de l'ancienne RN7, à La Crenille, ils inaugurent une statue métallique d'un cycliste en taille réelle, créée par Gérard Desgoulanges, et qui chaque jour rappelle à ceux qui passent là qu'au matin d'un certain 2 juillet 1903, un certain Maurice Garin, premier coureur du premier Tour de France, est passé. Une manière de boucler la boucle. Mais la grande boucle, elle, continue.
Eh oui.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin et Xavier Magat.